Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
19h sur CNews, merci d'être avec nous pour Ça se dispute avec Julien Drey ce soir. Bonsoir Julien.
Bonsoir.
Ancien député Geoffroy Lejeune. Bonsoir Geoffroy, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Le point sur l'info et ensuite on revient sur cette phrase, ce mot prononcé par le ministre de l'Intérieur, cette contre-attaque, l'éco-terrorisme. Qu'est-ce que c'est l'éco-terrorisme? Est-ce qu'il a eu raison de prononcer ces mots-là? On en parle juste après le point sur l'info.
Un Français parmi les victimes de la bousculade à Séoul. Des dizaines de milliers de personnes célébraient Halloween dans la capitale coréenne hier soir. Au moins 153 personnes sont mortes en raison d'un mouvement de foule. La plupart des victimes décédées sont des jeunes femmes âgées d'une vingtaine d'années, selon le ministère. L'Église contre le projet de loi sur l'euthanasie. On franchirait la ligne rouge avec l'aide active à mourir. Ce sont les mots du président de la Conférence des évêques de France. Il s'est exprimé sur le sujet dans une interview accordée à nos confrères du Parisien. Des solutions alternatives sont possibles, selon lui. Il plaide pour davantage de soins palliatifs. Et puis la Russie suspend l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Moscou assure que cette décision avait été prise après une attaque de drones sur ses navires. De son côté, Kiev dénonce un faux prétexte. L'accord avait été signé le 22 juillet dernier à Istanbul. Il a permis d'exporter plus de 9 millions de tonnes de céréales et produits agricoles.
Voilà pour le point sur l'information. Je le disais, le ministre de l'Intérieur vient de frapper fort, très fort ce soir en réponse aux violences en marge d'une manifestation interdite dans les Deux-Sèvres, et ça dure depuis maintenant 48 heures. L'éco-terrorisme, l'œuvre d'éco-terroristes qu'il condamne bien évidemment. On écoute le ministre de l'Intérieur.
Je voudrais souligner bien évidemment que par ailleurs, ce qui s'est passé relève de manifestations extrêmement violentes. On aurait pu imaginer une manifestation pacifique, elle n'a pas eu lieu. Il y a eu une grande partie des manifestants violents, encore une fois, qui s'en prenaient physiquement aux gendarmes, les blessant, s'en prenant par exemple à 5 véhicules de gendarmerie qui ont été détruits. Et je veux redire que cela relève de l'éco-terrorisme. Il y a des gens qui fichaient S, c'est-à-dire radicalisés pour les services de renseignement français, pour l'ultra-gauche, veulent manifestement le désordre et le chaos, et nous ne pouvons l'accepter. Et la main ferme de l'État sera évidemment au rendez-vous et je crois que tous les responsables politiques devraient les dénoncer. Je m'étonne que l'ordre républicain n'ait pas été soutenu par toutes et tous.
Alors il faut toujours faire simple dans ces cas-là et je vous renvoie à la définition Larousse du terrorisme. Ensemble d'actes de violence commis par une organisation ou un individu pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays, d'un système. Éco-terrorisme ou non, ce qu'on a vécu depuis 48 heures dans les Deux-Sèvres, Geoffroy Lejeune.
Moi, je suis d'accord. Comme vous, quand j'ai entendu cette conférence de presse, j'ai bondi en me disant il a raison, en fait. Et évidemment, c'est ce mot qu'on va retenir.
Moi, je n'en attendais pas moins de vous.
Et je fais ma part du job. On va voir si vous faites la vôtre. Moi, je suis absolument d'accord. Si on prend là, en effet, la définition comme vous l'avez fait, ça fonctionne très bien. J'étais même d'accord en tout point. J'espère qu'on va pouvoir décliner un peu tout ce qu'il a dit, Gérald Darmanin, en tout point avec ce qu'il a dit. C'est-à-dire que ça me semblait être parfait sur le maintien de l'ordre, sur le fait que personne n'avait soutenu. Il y a quand même plus de 60 gendarmes qui sont blessés. Je trouve ça absolument scandaleux. Et maintenant, c'est une information qui passe comme ça. Personne ne revient dessus. Maintenant, c'est comme d'habitude avec ce gouvernement. Il va falloir voir quels sont les actes. Donc, je sais qu'il y a 1000 gendarmes qui restent sur place. Ça, moi, j'ai aucun doute sur le fait que les forces de l'ordre sont mobilisées pour que l'ordre soit respecté. On va voir comment ça tient dans la durée. Moi, j'ai une petite inquiétude parce que, alors, c'était pas Gérald Darmanin qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, mais juste la fois où ils ont eu affaire à une forme d'éco-terrorisme, ou en tout cas à du zadisme poussé, c'était Notre-Dame-des-Landes, et ils ont capitulé politiquement tout en évacuant la ZAD malgré tout.
Il y aurait 9 ans. Donc, effectivement, ça a été très long.
Ça a été une forme de en même temps qui, à l'époque, je pense, a entretenu l'idée de ces éco-terroristes qu'en fait, ils avaient raison d'agir comme ça. Je pense que c'est ça le problème.
Vous employez déjà le mot éco-terrorisme. Ça vous choque ou pas, Julien Drey?
Non, mais le ministre de l'Intérieur communique beaucoup depuis hier sur ce qui s'est passé là-bas. Il dit qu'il aurait pu y avoir une manifestation pacifique. Vraisemblablement, oui. Mais pourquoi elle a été interdite si vite? À partir du moment où on interdit la manifestation telle qu'elle a été et qu'on dramatise l'événement, on sait qu'on rentre dans une logique de violence. Alors, ça veut pas dire que ça justifie la violence, ça veut pas dire que c'est pas détestable ce qui s'est passé, etc. Mais je suis pas sûr que le gouvernement ait eu toute la volonté nécessaire pour apaiser les choses au départ. Je dis bien au départ. Après, sur la ZAD, de Nantes, de Notre-Dame-des-Champs.
Des Landes.
Des Landes. La vérité, pardon, excusez-moi, la vérité, c'est quand même que sur le fond, cet aéroport qu'on voulait construire n'a aucun intérêt. D'ailleurs, on s'en passe bien.
Oui, mais là, on détourne un peu du sujet. Le terme éco-terroriste, Julien Drey, je sais que vous avez l'expérience parfois de contourner les questions, mais là, je veux savoir si l'ancien député que vous êtes, au regard de ce qu'il s'est passé il y a, depuis 48 heures, au regard de cette radicalisation du mouvement écolo,
vous avez besoin aujourd'hui pour condamner la violence ?
Ah, pas du tout. Ah, je ne sais pas ce que je demande, mais je demande. Vous savez, je suis très attentif à ce que vous dites et j'apprécie vos analyses. J'ai besoin de savoir si vous condamnez ou non, ou si vous considérez que ce sont des éco-terroristes, si c'est le bon mot.
Non, le mot terrorisme, d'après moi, il a un sens particulier par rapport à ce qu'on a vécu. Je ne suis pas sûr que les comportements violents qu'on ait se rangent dans la catégorie du terrorisme. Donc, moi, les formules m'intéressent peu. C'est-à-dire, si elles m'intéressent, parce qu'on a l'impression qu'on veut dramatiser les choses dans une situation qui, d'après moi, n'a pas forcément. Mais on verra dans les jours à venir, parce que moi, je ne suis pas un spécialiste. Je vais être honnête avec vous, je ne m'étais pas penché sur la question des bassins jusqu'à hier. Bon, j'avais vu qu'il y avait un problème. Bon, d'ailleurs, j'ai passé mon après-midi, pour vous faire une confidence, à essayer de comprendre si c'était justifié ou pas, et j'en sais toujours rien. Voilà. Parce que c'est pas si simple que ça. Voilà. Le cycle naturel de l'eau, les terres, etc. et tout. Donc, je fais attention. Voilà, c'est tout.
Bah, en fait, si vous voulez, on ne va pas débattre des bassines, en effet, ou des bassins, tout comme on peut ne pas débattre de la pertinence de l'aéroport ou pas. En réalité, ce n'est pas le sujet. Au sens, moi, je n'avais même pas d'avis, d'ailleurs, sur Notre-Dame-des-Landes. J'avais des amis qui étaient pour, des amis qui étaient contre, avec des arguments très intéressants dans tous les cas. La question, c'est celle de l'ordre. Et votre réponse prouve que, malgré tout, malgré le fait que vous soyez un spécialiste de la sécurité, etc., malgré tout, à gauche, il y a un problème avec l'ordre. C'est-à-dire que...
Non, il y a un problème avec... Non, l'ordre, ce n'est pas une valeur en soi. L'ordre, il a un sens politique. Si le gouvernement provoque le désordre par une attitude violente, vous dites non. C'est le gouvernement, donc il a raison.
C'est exactement ce que j'allais dire.
Le jour où vous allez faire une manifestation, vous êtes jeune, moi c'est fini, puis j'arrive plus beaucoup à marcher. Mais vous, le jour où vous allez faire une manifestation et puis que vous allez défendre, je sais pas quoi, à un moment donné,
Une manif pour tous, par exemple, au hasard.
C'est pas. Et vous allez prendre des gaz lacrymogènes ou des coups de matraque. Vous me direz, ah c'est pas bien ce qui s'est passé. Alors, c'est pas bien. Le gouvernement a exercé une violence.
Figurez-vous que ça m'est arrivé. Bon, ça m'est arrivé puisque j'ai participé aux manifs pour tous. Je les couvrais en tant que journaliste et j'ai vu le gaz, etc. Et je n'ai pas été choqué par le fait que les gens qui débordaient du cadre de la manifestation prennent un peu de gaz ou se fassent. Ah bah si, je suis désolé. Il y a des rues qui sont interdites, on n'y va pas. Il y a des endroits où on n'a pas le droit d'aller, on n'y va pas. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, on les fait pas.
Vous êtes bien sage. Vous êtes un garçon très sage.
C'est quand on est de droite, en fait, on respecte ça.
Non, j'ai vu des gens de droite qui prenaient des coups de matraque.
C'est une tradition d'extrême droite, je peux bien croire. Mais quand on est de droite, on aime l'ordre et on respecte l'uniforme.
Non, c'est pas quand on est de droite. Quand on est républicain, ce qui est intéressant, c'est pas votre histoire. Je vois bien vous voulez. Vous voulez me dire, d'un côté, il y a les partisans du désordre, ou en fait, il y a les partisans du désordre et leurs complices. Et nous, on est complices parce qu'on ne joue pas dans le piège.
Je vais venir, mais plus tard. J'avais une chose à dire.
Voilà, j'avais anticipé.
Mais vous avez raison.
Je vois bien la démonstration, je la connais. Mais moi, je pense que l'ordre, c'est pas... L'ordre, ça dépend... Je suis pour la République, je suis pour l'ordre républicain, mais je ne dis pas le gouvernement a spontanément raison et les manifestants ont spontanément tort.
Vous dites...
Dans l'affaire, j'ai l'impression, je le dis avec honnêteté, vu de loin... J'ai l'impression qu'on n'a pas créé les conditions pour que tout ça se passe bien.
Mais c'est pas le sujet, justement. En fait, vous dites justement, vous commencez par dire, ah, mais s'ils n'avaient pas interdit, ça serait peut-être
plus facile. C'est pas le sujet. Parce que c'est vous qui décidez que c'est pas le sujet.
Non.
C'est la justice, c'est à la justice de dire s'il faut une manifestation ou non.
Non, c'est pas la justice qui décide si la manifestation
est interdite. C'est une décision administrative.
Non. C'est le préfet, etc.
Mais il y a des recours après judiciaire, j'imagine.
Il y a des recours, etc. Mais c'est le préfet qui, au point de départ, prend la décision. Donc c'est pas la justice qui a l'initiative de ça.
Et ensuite, la justice s'en mêle.
D'accord. Mais après, on fait donner la justice.
On est bien d'accord.
Qui sont justement discutables. J'ai vu, je m'excuse de dire, des décisions de gouvernement qui interdisaient les manifestations, et on se rendait compte après que c'était une erreur. Donc voilà.
Moi, je suis désolé, je ne vais pas vous dire. Je suis désolé, mais non, c'est vraiment très important. Le préfet décide sur la foi d'éléments probants d'interdire une manifestation. Décision qui peut être en effet annulée par la justice si elle n'est pas suffisamment motivée. C'est ce que disait Elliot, il a raison. En l'occurrence, la crainte que des personnes qui sont fichées pour écoterrorisme, on va dire ça maintenant, en tout cas pour des modes d'action qui ne sont pas acceptables en manifestation, sont en train de venir sur la zone pour cette manifestation. Donc il le fait comme ça. Et la manifestation a quand même lieu. Et la gauche vient manifester malgré tout, c'est-à-dire il y a des élus qui viennent, etc.
Mais on va y venir.
Pourquoi ? Et bon, pardon, alors je spoil.
Faites attention, oui, je veux pas qu'on déborde.
Non, vous avez raison. Mais parce que la justification est légitime et qu'au fond, la contestation est une de vos valeurs, vous trouvez que c'est un peu normal non, et que la faute, c'est le gouvernement qui a interdit la manif.
Non, mais vous n'allez pas me jouer le coup du gentil garçon qui pense que moi, je suis un partisan du désordre, que
non, mais vous excusez.
Le désordre ferait partie de mes valeurs.
Vous excusez, j'ai pas dit ça.
J'ai quelques-uns de vos amis qui n'ont pas ménagé, idéologiquement parlant, qui n'ont pas ménagé quand ils le voulaient, la matraque, quand il fallait nous en donner à nous, militants d'extrême gauche.
Non, attendez, bon, alors ça, pas moi, je suis né en 88, je ne connais pas ces gens.
La filiation politique à laquelle vous appartenez.
Mais pas du tout, de quoi vous parlez.
Ah non, vous ne rendez pas de la droite. Vous êtes né de la cinquième, vous êtes né de la dernière pluie, et vous êtes un garçon gentil.
Bon, pas d'attaque personnelle. Allez, on avance.
Je ne suis pas d'accord avec ça. Je dis simplement, j'avance avec prudence. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le premier ministre de l'Intérieur. Il est dans son rôle. J'en ai vu d'autres, des ministres de l'Intérieur, ouais, qui dramatisaient un certain nombre d'événements, qui annonçaient des choses. Et puis, quand le temps passait, on se rendait compte que c'est pas aussi simple.
Il y a 60 gendarmes
je pense, blessés. Mais je sais pas, est-ce que j'ai justifié la violence de la manif?
Non,
je vous dis simplement les conditions qui ont été créées par rapport à cette manifestation. Je suis pas sûr qu'au départ, on n'ait pas pris la décision d'aller à la bagarre.
Avançons. Ce qui est intéressant, c'est que ce dimanche, des activistes s'en sont pris à des canalisations en les sectionnant. Un tuyau de ramification d'une vingtaine de mètres a été déterré, sauf que c'est ça qui est fascinant, ce qui a été saboté ne correspond absolument pas à la canalisation des bassines, liées à ces fameuses bassines, mais à un pauvre agriculteur qui avait absolument rien demandé. Et donc il est victime de ces activistes. Je rappelle que la manifestation est interdite pour le deuxième jour et que hier, 61 gendarmes ont été blessés, dont 22 sérieusement, 4 du côté des manifestants. Regardez, c'était donc la séquence aujourd'hui où ces tuyaux ont été sectionnés par les activistes. Ça, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. D'ailleurs, on n'a pas posé la question, et ça, je suis embêté, au ministre de l'Intérieur. Mais pourquoi les forces de l'ordre ne sont pas intervenues à ce moment-là? Pourquoi elles ont laissé faire cette casse et ces détériorations? Hier, violence, je le disais, 61 gendarmes blessés. Regardez, c'était hier. Alors, on ne l'a pas encore, mais en revanche, on a le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Manif pacifique contre les bassines. Et une nouvelle fois, 3 députés frappés et aspergés de gaz lacrymo. Lisa Bellucco, Europe Écologie Les Verts, Manon Meunier et Loïc Prud'homme, LFI. Une police républicaine. Il se pose la question, la police républicaine, manif pacifique. Gérald Darmanin lui a répondu aujourd'hui. Écoutez.
Les images que vous avez diffusées parlaient d'elles-mêmes. Je regrette qu'une nouvelle fois, M. Mélenchon, Mme Rousseau, fassent le choix de la radicalité. Le général de Gaulle disait en d'autres temps qu'il y avait des professionnels du désordre. Je regrette que M. Mélenchon soit manifestement toujours et encore du côté des professionnels du désordre. Moi, je veux dire que nous soutenons aujourd'hui profondément les agents de la force publique, les gendarmes présents qui ont été courageux. Je veux aussi dire que nous soutenons les agents de la préfecture qui, tout le week-end, ont travaillé, à commencer par Madame la préfète. Et je veux dire que nous soutenons les agriculteurs de France.
Il y a une minute, Darmanin dérape. Voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon après avoir fait frapper des députés. Il menace d'envoyer le GIGN et le RAID contre des éco-terroristes, entre guillemets, en lutte contre les bassines. Est-ce que c'est un professionnel du désordre? Est-ce qu'il est aux côtés des professionnels du désordre, Jean-Luc Mélenchon? Geoffroy Lejeune.
C'est l'énième épisode de sa dérive invraisemblable. Déjà, quand on parle de manifestation pacifique, j'ai envie d'éclater de rire, parce que c'est une manifestation avant tout interdite, pour commencer. Et ensuite, deuxièmement, il nous fait sort le violon sur des députés qui auraient reçu du gaz lacrymogène. Moi, je vais juste rappeler le ratio, mais il faut qu'on s'interroge là-dessus. 61 gendarmes blessés, 4 manifestants blessés. C'est-à-dire que le ratio n'est pas normal dans un état de droit qui souhaitent être respectés. C'est le jour où il y aura plus de manifestants blessés que de gendarmes blessés et que les manifestations seront circonscrites et que les gendarmes réussiront à obtenir ce qu'ils veulent, en l'occurrence le maintien de l'ordre et, en l'occurrence, là en l'espèce, l'absence de manifestations quand c'est interdit, là on aura franchi un pas. Pour l'instant, on en est à tolérer le fait que ce sont les gendarmes qui prennent des risques quand ils vont faire des manifestations. On passe d'un revers de main sur le fait qu'il y a des gens qui sont fichés S, dont le métier c'est de faire ça. Par ailleurs, mais bien sûr que si, leur métier c'est d'aller dans des manifs, de faire déraper ces manifs.
Professionnels de la casse.
Des professionnels de la casse, ils étaient là ce week-end. Et ensuite, sur l'affaire du mauvais tuyau qui a été sectionné, c'est extraordinaire. En fait, c'est comme le film Problemos, vous savez, d'Éric Judor. C'est-à-dire, c'est ce niveau niveau d'abrutis en fait qui se soucient de l'écologie, mais moins que moi, encore moins que moi. Ils y connaissent rien. La preuve, ils se trompent de cible.
Guy, les mauvais tuyaux. Julien Drey, sur ce bras de fer qui est en train de se nouer, c'est intéressant. Gérald Darmanin qui dit que voilà, Jean-Luc Mélenchon est désormais aux côtés des professionnels de la casse et ses éco-terroristes.
Les professionnels du désordre, c'est une expression récurrente de ceux qui sont au pouvoir. Et je crois me souvenir d'ailleurs qu'elle a été employée par plusieurs ministres de l'Intérieur, c'est pas le premier à le faire, dès qu'ils ont des contestations en face d'eux, voilà, et que ça tourne mal. La question qui est posée, si vous me permettez, c'est qu'il y a un vrai débat, et auquel, par exemple, moi je n'ai encore pas de réponse sur ce, est-ce qu'on a raison de construire ces grandes bassines, est-ce qu'on n'a pas, on n'est pas encore en train de défendre une forme d'agriculture intensive, et qu'on ne répond pas simplement par la violence à cette question-là. La manifestation, elle avait été convoquée, elle aurait pu se dérouler. Vous savez quelle est la vérité de ce qui est en train de se passer? C'est qu'ils avaient l'inquiétude que la manifestation débouche sur l'installation d'une ZAD. Oui. Donc ils ont mis le paquet, vous savez c'est très simple, il n'y a pas besoin de mettre le paquet tout le week-end. Il suffisait simplement d'intervenir lundi matin, 5h du matin, en nettoyant, comme on le dit eux-mêmes, hein, ce qui était présent. Pourquoi on a...
Parce qu'il y a la jurisprudence Notre-Dame-des-Landes.
Non, mais la jurisprudence... Pour faire une ZAD, ça, je m'excuse de vous expliquer les choses.
Mais au contraire, bien évidemment, je suis là pour comprendre.
Non, il faut qu'il y ait des gens qui restent sur place et qui décident de s'installer, etc. Oui. Donc vous avez une manifestation, donc à la fin de la manifestation, un certain nombre de gens décident d'occuper les choses. Il n'y a pas 4000 personnes qui allaient rester sur le terrain. Vous voyez, il n'y en a pas 4000, ça c'est sûr. Donc il y aurait quelques dizaines, peut-être quelques professionnels. Voilà, vous arrivez à 5h du matin, je peux vous dire qu'à 5h30, l'affaire, à 6h du matin, l'affaire est réglée. Il n'y a pas eu besoin, on laisse la manifestation se dérouler, etc. Il y avait d'autres possibilités. Je vous dis, on regardera, mais les journalistes vont faire leur travail, comme vous avez commencé à le faire, on va regarder ce qui s'est passé. Alors après, vous avez des professionnels de la casse, mais ces professionnels de la casse...
Ils sont fichés S.
Voilà, mais pourquoi on les laisse arriver?
Mais parce que légalement, on ne peut pas leur interdire de...
Si, on peut... Justement, puisque vous dites la justice, on peut très bien prendre la décision en ayant les éléments d'information, de les interdire, comme on fait pour les supporters, etc., de les interdire.
C'est toute la polémique, c'est justement toute la problématique sur les manifestations, Julien Drey. Sur les manifestations, on ne peut pas faire comme avec les hooligans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur demander de pointer avant.
On peut, en amont, arrêter bien des choses quand on a des services de renseignement qui font leur travail, qui ont les éléments d'information, etc. Aujourd'hui, vous avez des services de renseignement qui ont été très affaiblis par les réformes qui ont été faites et qui donc ont peu d'informations. Donc on ne donne pas la capacité d'intervenir. Voilà. Donc il va falloir regarder si le dispositif qui a été mis en place était justifié dans sa forme et dans cette voilà. Alors après, juste une petite remarque. Si le ratio entre nombre de manifestants blessés et nombre de gendarmes blessés est un élément décisif pour vous, excusez-moi, à part aujourd'hui, le plus souvent, il y a quand même, c'est pas aussi simple que ça. Voilà. Donc si on c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de manifestations où il y a beaucoup de manifestants aussi qui parfois ont été blessés. Et moi, je prends pas ça comme un ratio en disant, bon là, il y a tant de manifestants blessés, tant de forces de l'ordre. Alors c'est bien.
Non, mais je dis pas ça. Enfin, j'ai dit ça, vous avez raison. Mais je le dis parce que.
Vous l'avez dit.
Mais je vais même le répéter. Mais pour vous dire que.
Non, vous pouvez vous répéter. C'est pas pour ça que vous avez raison.
Mais c'est pour que vous compreniez. 4 contre 61. C'est pas normal en réalité. Ça veut dire qu'il y a un truc qui dysfonctionne.
Ça veut dire simplement que vous êtes dans une difficulté qui est une difficulté réelle. C'est pour ça que je pense que la décision qui a été prise était discutable. Parce qu'on a l'expérience. Vous êtes sur des zones très étendues. Très compliquées pour les forces de l'ordre de contraindre des petits groupes qui surgissent de nulle part, qui balancent un cocktail Molotov ou des pierres. Et c'est vrai qu'on expose les forces de l'ordre à ce genre de situation.
Je ne souhaite pas qu'on se noie dans un débat sur la technique de maintien de l'ordre.
Vous intéresse alors. La seule chose qui vous intéresse, c'est de faire une campagne pour l'ordre. C'est bien, mais en même temps, pour faire campagne sur l'ordre, il faut savoir comment on maintient l'ordre. Sinon, ça n'a pas d'intérêt.
La vérité, Julien, c'est que quel que soit votre avis sur le maintien de l'ordre, et le mien d'ailleurs, il y a des gens dont c'est le métier qui font ça très bien.
Non, on a des gens qui ne le font pas très bien. Justement, c'est ça. C'est là où je vous invite à faire attention, parce que l'expérience politique a montré que des fois, ils ne le font pas très bien.
Bon,
voilà.
Pas tous, vous avez raison. Mais moi, ce que je veux juste vous dire, c'est qu'on est en train de faire comme si de rien n'était, alors qu'il y a 61 gendarmes qui ont été blessés et 4 manifestants. Ça veut dire que ça n'était pas une répression de la manifestation violente, et Mélenchon arrive le dimanche soir en expliquant que en expliquant que ça a été une répression terrible et horrible, et en plus des élus, etc. Déjà, qu'est-ce qu'ils foutaient là, les élus, en fait, pour commencer?
On y vient, c'est la question que je voulais vous poser, puisque Sandrine Rousseau était présente à la mobilisation. Alors c'est très important important de différencier ce qu'il s'est passé les heures avec cette manifestation qui était interdite. Et puis, en fait, il y a un campement qui a été placé à quelques centaines de mètres dans un lieu privé, un espace privé, où c'est là où ils ont formé leur groupe. Et Sandrine Rousseau était présente pour soutenir la mobilisation et la contestation contre ces bassines. Elle était ce matin chez nos confrères de BFM et elle est favorable à la désobéissance pacifique. Voilà ce qu'elle dit. Écoutez.
Il y a eu des tirs de LBD. Je rappelle quand même que le LBD peut blesser au point de perdre un œil. Et on l'a vu dans les manifestations des Gilets jaunes. Pourquoi un tel déploiement de police pour juste une manifestation écologiste? Je soutiens une désobéissance sans violence, surtout quand il s'agit d'écologie.
Une élue de la République ou un élu qui appelle à la désobéissance, même pacifique, un élu ou une élue de la République qui participe à un mouvement à côté d'une manifestation qui est interdite, est-ce que c'est une faute grave, Geoffroy d'abord?
Moi j'adore Sandrine Rousseau parce que quand elle parle, elle dit ce que tous les autres pensent mais n'osent pas dire. Tous les autres, j'entends la grande famille de la gauche française aujourd'hui. Elle dit, puisqu'elle est probablement, elle a moins de filtres et elle est peut-être un peu inconsciente aussi, elle dit
certains
exactement.
Certains diront courageuse, par exemple. Plus de courage.
Non, c'est pas courageux dans le monde d'aujourd'hui. Quand vous dites ça, vous êtes applaudi par les médias, encensé, etc. Tout va bien pour elle. Mais en revanche, ce qui est extraordinaire, c'est que elle vient donc d'expliquer que elle était pour la désobéissance, surtout quand il s'agit de raisons écologiques. Et la vérité, c'est que la gauche française, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je m'insurge contre le fait que certains élus aient été dans cette manifestation, pensent que la cause est plus importante que tout le reste, notamment les règles communes, notamment l'ordre, notamment la loi, notamment. Et donc elle vient non pas de le théoriser, parce que d'autres l'ont fait bien avant elle, mais elle vient de l'avouer. Et je trouve ça extraordinaire. Donc en fait...
Excusez-moi, mais la cause, des fois, justifie effectivement un certain nombre de comportements. Dans l'histoire, il y a eu des moments où il fallait tenir... Et
dans ce cas-là...
Donc vous ne pouvez pas dire... Il n'y a pas de cause qui justifie à ce moment-là un certain nombre... Vous ne pouvez pas établir des théorèmes. Ou alors, vous savez ce que vous allez faire avec ça? Ça veut dire que vous serez toujours du côté de l'ordre. Mais des fois, l'ordre... C'est pas la justice.
Non, je suis.
Des fois, l'ordre, c'est pas la justice.
Non, justement.
Des fois, il faut justement qu'il y ait des gens qui se soulèvent contre les injustices. Et ils prennent des coups, ceux-là.
Donc, ce qui est intéressant.
Et vous en êtes bien content après d'avoir les conséquences de ces mobilisations. Qu'il y a beaucoup de choses qui ont été conquises dans ce pays. Il a fallu que les gens descendent dans la rue et qu'ils prennent des coups pour les obtenir.
Ce qui est formidable, c'est que.
Mais non, ce qui est formidable, c'est que vous faites des théories. Moi, je n'approuve pas la violence qui a été mise en place par les petites minorités, etc. Je n'approuve pas, l'imbécilité d'aller couper le mauvais tuyau en plus. Donc ça, voilà, je sais en plus à peu près le type de groupe qui font ça, voilà, qui d'ailleurs ne m'aiment pas parce qu'ils n'aiment pas non plus toute une partie des responsables politiques. Vous avez vu que la voiture, et je lui apporte toute ma solidarité, de Yannick Jadot a été dégradée ce week-end.
Voiture louée, donc, oui. Avec marqué crevure, ce qui est scandaleux d'ailleurs. Mais Yannick Jadot n'a absolument pas condamné les actes de violence contre les gendarmes, malheureusement.
Il a participé à la manifestation. Donc ces groupuscules-là,
oui.
Dont d'ailleurs, un jour ou l'autre, on saura exactement l'origine. Et quand on découvre, on a des mauvaises surprises. Bon, moi, je ne les soutiens pas. Voilà, loin de là, au contraire. Maintenant, il y a un problème qui est posé. Il y a un problème sérieux. Je pense que le dispositif est à être interrogé. Je pense d'ailleurs que ça sera fait par un certain nombre de journalistes. Et après, je n'admets pas, excusez-moi, c'est une formule déplacée. Je ne suis pas d'accord avec le fait que vous dites, moi, il y a l'ordre, je suis toujours du côté de l'ordre.
Je vais vous dire pourquoi. En fait, déjà, vous êtes malheureusement pour vous au milieu du guet. C'est-à-dire que vous êtes pour l'ordre.
C'est moi où je suis, c'est très bien. Besoin d'être.
Alors, selon moi, vous êtes sur ce sujet au milieu du guet. Voilà, si c'est plus acceptable pour vous. C'est-à-dire que vous êtes pour l'ordre, je le sais. Et en même temps, vous avez ce réflexe de gauche que je décris depuis tout à l'heure, qui est de considérer qu'en effet, parfois la cause, mais c'est noble, parfois la cause mérite la désobéissance. Mais alors, dans ce cas-là, ayons une discussion sur la cause.
C'est pour ça, vous m'avez dit, et je suis d'accord, c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai dit sur la cause. Je m'interroge parce que moi, j'ai pas de version définitive. Je suis pas un spécialiste. Je l'ai déjà dit.
Oui. Les questions
agricoles, etc. sur les bassines. Ce que j'ai lu m'interpelle. C'est pas simple. Il y a du pour, il y a du contre. Il y a des écologistes même qui disent attention. Il faut peut-être ces bassines. C'est pas si dramatique que ça. Là, il y a un débat.
La publicité. On revient dans un instant, mais c'est passionnant ce débat. On reviendra sur la crise de l'inflation et la crise de l'énergie et l'inflation en France. Est-ce que plus dur sera la chute et la crise en France et en Europe. On va parler également de la justice. Est-ce qu'on doit se faire justice soi-même? Parce que les Français considèrent que la justice est laxiste. 87% des Français considèrent que la justice est laxiste. Voilà le programme pour la deuxième partie de Ça se dispute. A tout de suite. Quasiment 19h30 sur CNews, la suite de Soir Info Week-end. Non pas Soir Info Week-end, mais ça se dispute. Soir Info Week-end, c'est à 22h et on en parlait avec Julien Drey et Geoffroy Lejeune il y a quelques secondes. Voilà ce que je pouvais vous dire, mais on va d'abord faire un point sur l'information et ensuite on reprend le débat.
L'otage franco-australien enlevé au Tchad, libéré. Dans un tweet, le président tchadien assure qu'il est en bonne santé. Il avait été enlevé dans une province de l'est du pays, limitrophe du Soudan, vendredi. D'importants moyens sécuritaires et humains ont été déployés pour mettre la main sur les ravisseurs. Au moins 60 personnes sont mortes ce dimanche en Inde. Un pont suspendu datant de l'époque coloniale s'est effondré dans l'état du Gujarat. Près de 500 personnes se trouvaient dessus lorsque le pont a cédé. Plus de 82 personnes ont déjà été secourues. Et puis le départ du Grand Prix de Formule 1 du Mexique approche. Il sera donné à 21h, heure française. Max Verstappen s'élancera en pole position sur la grille. Derrière le Néerlandais, les Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton. La course est à suivre en direct sur Canal+ Sport 360.
Voilà pour le point sur l'information. L'affaire à Rouen a marqué l'actualité cette semaine, messieurs. Un père de famille, je le rappelle, a neutralisé l'agresseur sexuel présumé de sa fille de 6 ans. Une action punitive, accompagnée de ses amis, contre ce mineur isolé de 16 ans. Les Français, il faut le mettre en parallèle, les Français n'ont plus confiance en la justice. Un dernier sondage qui présente 87% des sondés qui considèrent que la justice est laxiste. Donc on va voir le sujet d'Inès Alicane et ensuite on en parle. Est-ce qu'on tend vers une société où les Français vont se faire justice eux-mêmes ?
C'est sous les applaudissements de ses soutiens que le père de la petite fille agressée est sorti du tribunal. Un soulagement pour son avocat.
Mais je ne peux pas nier, d'ailleurs mon client ne les nie pas, il y a des violences, c'est certain. Maintenant, dans un contexte très très particulier, un père de famille pour sa fille a procédé à l'arrestation, il a un peu perdu son sang-froid, mais je pense qu'il y en a d'autres à sa place qui auraient perdu le sang-froid de la même façon.
Ces phénomènes sont de plus en plus récurrents, comme à Lyon ou encore à Nantes, après le meurtre d'une femme. Une milice de quartier s'est créée, très active sur les réseaux sociaux, elle publie des vidéos de ses rondes citoyennes. Une bonne initiative pour ce porte-parole de la police qui en appelle à la prudence.
Intervenir soi-même, déjà, c'est dangereux. Donc il faut appeler la police et faire en sorte que la police vienne procéder aux interpellations. Les voisins vigilants, c'est surtout de signaler des comportements. Ça n'est pas ni de procéder à des interpellations, ni d'aller tabasser une personne qui serait interpellée.
Un sentiment d'insécurité de plus en plus partagé. 81% des Français estiment que la justice est trop laxiste, selon un dernier sondage de l'Institut CSA.
Julien Drey, vous avez peut-être entendu lors des manifestations « police partout, justice nulle part ». Peut-être que là, ce qui est en train de se créer, c'est finalement justice laxiste, justice soi-même. Est-ce qu'on est en train de tendre vers cette société-là, plus sérieusement ?
C'est le risque quand l'institution judiciaire dysfonctionne. Mais je voudrais vous dire deux choses. D'abord, premièrement, sur l'affaire de Rouen, je nous invite, moi le premier, à être extrêmement prudent. Parce que je pense que l'enquête... va se produire et qu'on n'a pas forcément eu la version des événements telle qu'elle a été présentée au départ. Je nous invite à être prudents parce qu'il y a déjà eu, dans le passé, des affaires où tout le monde s'est mis à prendre parti pour les uns, pour les autres, puis on a découvert que les choses n'étaient pas si simples. Voilà, peut-être que...
C'est pour ça qu'on a dit l'agresseur sexuel présumé.
Voilà, mais je nous invite à être prudents, Jean. Je n'ai pas... J'ai été alerté par un certain nombre de gens sur ce qui se passait, donc je ne veux pas prendre parti. Je vous invite à être prudents pour pas qu'on se retrouve après nous-mêmes ridiculisés. C'est la première chose. Deuxièmement, sur le dysfonctionnement de l'institution judiciaire, oui, il y a dysfonctionnement. Vous savez, il y a un événement, c'est d'ailleurs étonnant, qui est passé quasiment inaperçu. Pourtant, c'est un événement très important. Lors du procès du terroriste de Nice, vendredi,
Des attentats de 2016.
L'attentat de Nice, le juge a demandé à entendre un policier. Et il y a eu une visioconférence avec le policier. Et ce qui a été révélé à l'audience, c'est que ce tueur, en fait, avait donné des signalements. C'est-à-dire que sa femme avait été portée plainte à deux reprises pour cette violence qu'il exerçait à son égard, pour le comportement de son mari, qui était incroyable. Voilà, il avait donné des coups de couteau sur le dos de sa petite fille, il faisait des tas de choses. Et le policier a entendu un quart d'heure, cette dame, et il ne s'est rien passé. Et le juge lui dit, ça veut dire que si normalement, cette personne aurait dû être mise en garde à vue, aurait dû avoir l'ouverture d'une procédure. Vous voyez toute la logique de cela. C'est-à-dire que l'institution judiciaire, elle est, par voie de conséquence, elle est aussi interpellée par la manière dont les choses se passent sur le plan en amont des enquêtes. C'est pour ça que la réforme de la police judiciaire est aussi une interrogation.
Donc vous voyez aussi l'aspect policier. Plus
ben oui, parce qu'il y a tout un système qui dysfonctionne en ce moment. Et dans ce dysfonctionnement, pas tout, je veux dire, la fait qu'on affaiblisse encore la police judiciaire n'est pas fait simplement pour faire, je dirais, parce que c'est ça le fond de l'affaire. On va dessaisir un certain nombre de policiers compétents, qualifiés, pour faire des enquêtes sur le terrain, pour faire de mettre du bleu, comme on dit. Mmh. Voilà. Donc c'est toute l'institution qui est interpellée. Et évidemment, quand l'institution est en dysfonctionnement total, la tentation, elle est... Et on voit bien
ce Geoffroy Lejeune, je vous rappelle ce chiffre. 97% des Français qui considèrent que la justice est laxiste. Et on en vient à se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, parce que les Français considèrent que finalement ça va prendre trop de temps, la personne qui aurait dû être condamnée aura une peine trop légère, qu'on va trouver des circonstances atténuantes, etc., etc. Les Français se disent, c'est bon, maintenant je me fais justice moi-même, la loi du talion.
Je pense qu'on y est, déjà. Et il y a aussi un autre aspect, c'est est-ce qu'on est suffisamment protégé ? Est-ce que la justice jouant évidemment un rôle là-dedans ? Est-ce qu'on est suffisamment protégé ? Réponse non. Et donc, c'est l'explosion du nombre de gens qui prennent des cours de Krav Maga ou de self-défense, qui se préparent en fait au jour où ils vont être attaqués dans la rue et où personne ne sera là pour les aider. Et je pense que ce sont les deux faces d'une même pièce. Tout à l'heure, Julien a expliqué, quand on parlait des éco-terroristes de ce week-end, que parfois une cause peut être un peu supérieure à la loi ou à la règle et que donc on peut la supporter, la transcender et puis tout à coup, et j'étais pas d'accord en tout cas dans le cas de l'éco-terrorisme, parce que je trouve que les gens qui sont en train de scier des canalisations sont pas en train de sauver des juifs, de cacher des juifs dans leur
cave. J'ai jamais dit ça, moi.
Hein. Non, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir une discussion sur... Pourquoi pas admettre que parfois il faut transgresser la loi quand la cause est plus noble. Je pense que ce qu'ils ont fait ce week-end ne justifie absolument pas.
J'ai jamais dit ça non plus.
Je sais, mais ni 60 gendarmes blessés ni quoi que ce soit, et que dans l'histoire vous avez raison. Il y a eu des moments où ça a été nécessaire et heureusement des gens se sont levés. Là, en l'occurrence, je pose la question avec exactement le même cadre de débat. Si tout est vrai, parce que pour l'instant les éléments qu'on a vont dans ce sens-là. Et Julien, peut-être que vos infos seront justes.
Non, je ne suis pas journaliste, moi.
Vous avez raison.
Au-delà de l'affaire de Rouen, c'est ce que l'affaire de Rouen, c'est un élément, mais ça peut arriver. D'autres faits, malheureusement, de société nous ont prouvé que parfois les Français veulent se faire justice eux-mêmes.
Moi, je vais vous traduire l'affaire de Rouen telle que je l'ai ressentie. C'est si tout est vrai, donc ma fille de 6 ans a été agressée sexuellement par un mineur isolé qui donc ne sera jamais expulsé, parce qu'on n'expulse pas les mineurs isolés, et condamné à une peine qui sera deux fois moins importante que s'il avait été majeur. Mineur isolé, d'ailleurs, dont on ne peut jamais vérifier s'il est vraiment mineur et s'il est vraiment isolé, évidemment. Bref, je suis absolument certain que la peine qui sera prononcée ne sera pas à la hauteur de la peine qui a été causée à ma fille. Eh ben, je comprends le réflexe de ce monsieur, je le comprends, et je comprends que les gens le comprennent, et je comprends qu'il soit acclamé à la sortie de sa garde à vue. Donc, pour toutes ces raisons-là, en fait, cette affaire de Rouen est une conséquence du monde dans lequel on vit, du système dans lequel on vit, et de votre sondage des 80% des gens qui n'ont pas confiance dans l'institution judiciaire. Donc il faut s'en emparer très rapidement. Dupond-Moretti d'ailleurs le commence à le dire, il y a une circulaire qui a été faite il y a pas longtemps qui reconnaît en gros tous ces éléments. Il faut juste qu'il y ait une politique publique assez rapide qui soit mise en place pour que la justice commence à obtenir des fruits. Sinon on vivra des affaires de Rouen tout le temps.
Autre thématique, la crise de l'énergie et l'inflation.
J'insiste sur le fait que dans ce genre d'affaires, il faut qu'on apprenne les uns et les autres à pas se précipiter. Parce que je pense qu'on a après des mauvaises surprises et que les mauvaises surprises invalident toute une série de discours.
Et décrédibilisent certaines positions. Mais c'est pour ça qu'on prend énormément de précautions lorsqu'on parle de ces dossiers de police justice.
C'est pour ça.
Et qui sont checkés et recheckés en amont.
Oui, non, mais c'est pas vous qui êtes en cause.
Je sais.
Voilà, je n'ai mis personne en cause. Je dis simplement qu'on m'a alerté. Donc
c'est un discours bienveillant.
Passer à la télé fait qu'il y a des gens qui vous parlent.
Oui.
Ils vous entendent, ils vous parlent, ils vous demandent de passer des messages, etc. On m'a alerté. Des gens raisonnables et responsables m'ont alerté en disant attention. Donc quand on me dit attention, j'écoute ce qu'on me dit.
La crise de l'énergie et de l'inflation mettent l'Europe sous haute tension, et plus dure sera la chute. La récession guette la France. Le secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises, Jean-Eudes Duménil, alerte dans le journal du dimanche. 150 000 entreprises sont en danger de mort. Voilà ce que le dit donc ce secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises. La défaillance des entreprises explose, plus 69% à l'été 2022 par rapport à l'été 2021. Et on a un reportage très intéressant sur ces boulangers boulanger, donc on est vraiment dans le cadre des toutes petites entreprises, qui, parce que les prix de l'énergie explosent, grimpent très fortement, ils sont obligés de réduire leur activité. Voyez ce reportage de la rédaction de CNews.
C'est 20 minutes à 270 environ. On essaye de cuire que le matin, qu'on arrête de cuire l'après-midi. Quoi.
Dans la commune de Pont-Saint-Martin, près de Nantes, les trois boulangers se sont organisés pour fermer à tour de rôle 2 jours par semaine. C'est mieux pour prendre du repos, mais la formule permet aussi à chaque entreprise de limiter les factures d'énergie qui ont explosé.
Ça nous fera à peu près plus de 2000 euros d'énergie par mois.
C'est le double de ce que vous aviez prévu.
Ouais, le double. Bah nous, du coup, on ouvre que le matin, du coup, de 7h à 14h. Donc du coup, ça limite les coûts d'énergie.
Les boulangers veulent éviter d'augmenter trop le prix du pain. Ici, la baguette est passée d'1 € à 1,10 €.
Voilà, nos clients, on ne veut pas qu'ils payent beaucoup plus cher. Après, ils vont partir aussi en grande surface.
Emmanuel Macron a promis aux petites entreprises un amortisseur électricité. Dans les fournils, on attend de voir.
Qu'on soit à peu près à des prix comme les particuliers, pourquoi pas, quoi.
Vous pourriez accepter jusqu'à combien en termes d'augmentation ?
Je dirais 5%, pas plus.
Les boulangers sont également confrontés à la hausse des matières premières. Des augmentations de la farine sont annoncées en fin d'année.
Est-ce qu'on a pris conscience du côté du gouvernement de l'ampleur de la crise, de la difficulté dans laquelle sont les Français et des milliers de Français qui ont aujourd'hui une petite entreprise et qui ne vont pas pouvoir subvenir à leurs besoins? Pourquoi? Parce qu'il y a eu la crise sanitaire que vient se conjuguer à la crise sanitaire, cette crise de l'énergie et cette crise économique.
Je sais même pas si c'est un problème de prise de conscience, parce que quand j'écoute Bruno Le Maire régulièrement, il le dit aussi, en fait, en tout cas dans les mots, il le dit. Le problème, c'est que le gouvernement n'a pas de solution, en fait. Je ne vois pas ce qui aujourd'hui pourrait aider les petites entreprises, c'est qu'on baisse leurs charges et qu'on baisse les charges sur les salaires, qu'on fasse des choses qui sont dites depuis 30 ans, que tout le monde sait. Et aujourd'hui, le gouvernement n'en a pas du tout les moyens, en fait. En réalité, on a distribué de l'argent qu'on croyait magique pendant des mois, maintenant 2 ans. On vit complètement au-dessus de nos moyens. On n'a absolument aucun indicateur qui fonctionne. Et on voit qu'aujourd'hui, je trouve que c'est presque le plus dramatique, c'est que les entreprises sont en effet obligées de réduire leur activité pour pouvoir continuer à subsister. Et en effet, le risque de fermeture d'entreprise est colossal. Il a quasiment jamais été aussi important. Et pour toutes ces... Et en fait, quand vous prenez l'équation en entier, le gouvernement ne peut agir sur aucun point. C'est-à-dire que s'il baisse les cotisations, il aggrave le problème de la dette, il aggrave le problème de ses ressources. Donc en fait, on n'a pas de solution. Il n'a pas de solution. Donc à part dire, comme Bruno Le Maire le fait et comme les ministres concernés le font, que la situation est grave et qu'on va se serrer les coudes pour en sortir, on peut pas faire grand chose.
On a l'impression, Julien Drey, qu'on enchaîne les projets.
Pas d'accord avec ce discours quasiment gouvernemental, parce que c'est pas vrai. On peut faire beaucoup de choses. La crise, elle est réelle. Elle est liée, pour une part, à la guerre qui se déroule en Ukraine, et elle est liée aussi à toute une ce qu'on appelle les profiteurs de guerre, qui aujourd'hui utilisent cette guerre pour augmenter les prix et avec des spéculations qui sont considérables, voilà, et qui font des super profits. Donc il y a des moyens d'agir par rapport à ces super profits, premièrement, pour les redistribuer, deuxièmement par une taxation sur un certain nombre de produits de grande nécessité, troisièmement par un ciblage des aides. Quel est le problème qui est posé par les boucliers qui sont proposés aujourd'hui? C'est que c'est souvent des boucliers très compliqués à mettre en place, et les artisans et les commerçants, ils n'ont pas, eux, quelqu'un qui est spécialisé dans la recherche des aides et dans la confection des dossiers, parce qu'ils travaillent 12-14 heures par jour. Les grandes entreprises, elles ont les services nécessaires pour le faire. Et d'ailleurs, souvent, c'est elles qui ramassent des aides dont elles n'ont pas besoin. On avait vu ça dans les années précédentes. Et c'est ça la question qui est posée aujourd'hui. Donc oui, il y a une crise, il ne faut pas la nier. Oui, il y a des difficultés. Il y a aujourd'hui quand même des possibilités d'action. Et c'est d'ailleurs dommage que le gouvernement passe à l'Assemblée par le biais du 49-3, parce qu'il y a des propositions qui sont des propositions sérieuses, y compris venant de sa majorité.
Avançons, un autre thème. J'aimerais bien qu'on fasse et le Brésil, mais un dernier thème politique. Marine Le Pen en tête, Macron qui se maintient 6 mois après la présidentielle. On refait le match, du moins on. C'est le journal du dimanche qui l'a fait avec ce sondage. On va voir les explications de Geoffrey Defebvre.
Un sondage qui place Marine Le Pen en tête du premier tour de l'élection présidentielle avec 30% d'intention de vote. Un gain de 6,5 points en captant principalement des voix chez les jeunes et les classes populaires. Avec une inflation en hausse, la présidente du groupe RN à l'Assemblée progresse largement auprès des salariés, captant 34% de cet électorat. En seconde position, le président augmenterait légèrement son score à 29%. Il stabilise sa base électorale, notamment auprès des personnes âgées et des retraités. Signe d'un mouvement de bascule vers la droite, 36% des sympathisants LR lui accorderaient leur vote. Grand perdant de ce sondage avec un recul de 4,5 points, Jean-Luc Mélenchon réunirait 17% d'électeurs. Cette baisse s'expliquerait par sa stratégie radicale et sa gestion des accusations de violence conjugale portées contre Adria Quatennens. Au second tour, Emmanuel Macron l'emporterait avec 53% contre 47% pour Marine Le Pen. Loin des 17% qui les séparaient en mai dernier, Marine Le Pen renforce sa position d'alternative pour 2027.
Alors ce match, il est un peu biaisé parce que 2027, Emmanuel Macron ne sera pas là. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il se maintient, le chef de l'État, que Marine Le Pen progresse fortement, 30% au premier tour, Jean-Luc Mélenchon qui chute, et puis les LR et le PS qui sont des partis malheureusement peut-être mort-nés avec 2 et 3%. Qu'est-ce que vous retenez de ce sondage ?
Une polarisation, en effet, sur les deux participants du dernier second tour de la présidentielle. J'en retiens surtout, moi je me méfie un peu, c'est assez intéressant pour sentir l'ambiance, mais je me méfie parce que vous savez, en 2019, aux élections européennes, Mélenchon fait 6%, et à l'époque, tout le monde, moi le premier, se dit, tiens, c'est probablement fini, il a eu son moment en 2017, et puis maintenant, voilà. Et puis en fait, il a refait un très bon score en 2022. Donc c'est très très compliqué de commenter les sondages à ce moment-là, et je note, comme vous avez terminé tout à l'heure, qu'en effet, par contre, tout ce qui se situe en dehors de l'alternative Macron-Le Pen, en gros, on voit qu'eux progressent en prenant aux Républicains, au PS, à Zemmour aussi, dans le cas de Marine Le Pen, Zemmour aussi baisse. C'est assez intéressant de voir que ce qui n'est pas dans ce duel n'existe pas.
Julien Drey.
Moi, je pense que ce sondage reflète les difficultés de cette rentrée qu'on a évoquée. Bon, il y a première chose qui est à noter et qui est un tournant politique par rapport à ce qu'a été le macronisme première génération. Il y a une inflexion à droite qui est le tandem maintenant affiché, je dirais, entre Nicolas Sarkozy et le président de la République. Et donc, on voit bien que les électeurs... que Nicolas Sarkozy, c'est un des dirigeants de droite qui a gardé une influence électorale. D'ailleurs, c'est ça qui énerve une partie des siens.
Je ne suis pas si d'accord avec ça, en fait. La dernière fois qu'il a été candidat à une élection, il a fait 20% dans son propre électorat pour la primaire de la droite, très loin derrière.
Mais il a quand même... Enfin, c'est mon avis. Voilà. Donc, il y a un basculement d'une partie des électeurs républicains qui se disent « on vote utile ». Et donc maintenant, c'est Macron qui nous représente, premier aspect des choses. Deuxièmement, il y a effectivement une opposition à gauche qui n'a pas pris la mesure du combat à la fois culturel, idéologique, technique qu'il faut mener, qui s'est laissé emporter ou se laisse emporter, se fait prendre en otage par des minorités qui, d'après moi, déportent le débat sur des questions qui ne sont pas les questions essentielles. Parce que d'abord, la gauche, je m'excuse de le dire, ça va vous faire plaisir, c'est d'abord son combat social. Et elle doit se distinguer par ce combat social, par ce combat contre les injustices. Ça ne veut pas dire que les combats sociétaux ne sont pas importants, mais d'abord, elle doit toujours garder cette identité-là et pas se laisser déporter. Et donc, le cœur de la gauche aujourd'hui, justement, il a été déporté, et c'est le reproche que je fais à Jean-Luc Mélenchon, notamment.
Dernière information au Brésil, 156 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le second tour de la présidentielle. Une élection historique qui pourrait voir un retour de Lula à la tête du pays, ou alors un second mandat pour Bolsonaro. Je vous propose juste l'image, on aurait pu avoir les explications du correspondant, mais il nous reste 3 minutes, et c'est votre analyse qui nous intéresse. Regardez, à gauche, Bolsonaro qui donc va voter avec le maillot du Brésil, et Lula qui a gardé... sa chemise, Bolsonaro, il a sous son maillot du Brésil un gilet pare-balles. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que ça se passe dans un contexte quand même assez particulier. On promettait un carton pour Lula. Bolsonaro est en train de nous faire une remontada, Geoffroy Lejeune, ou pas ?
Bah, j'en ai absolument aucune idée, mais c'est vrai que moi je pensais en lisant les papiers il y a un mois sur avant le premier tour de l'élection que c'était fait. Donc déjà le premier tour a été un choc pour les commentateurs qui pensaient qu'il allait gagner au premier tour. Donc on verra les résultats des second tours. Et moi j'aime bien en général quand les pronostics sont déjoués, surtout quand ça va dans ce sens-là. Vous savez la Renaissance, Lula, etc. Extraordinaire. Bref, donc je trouve ça intéressant de voir. En fait, ça nous rappelle une chose, c'est que les opinions sont quand même assez polarisées et que ça n'existe pas en fait une démocratie qui vote à 80% pour un président de gauche ou de droite d'ailleurs. Ensuite, moi, l'autre chose qui m'intéresse, c'est de voir, un peu comme avec Trump d'ailleurs, il avait à peu près les mêmes ressorts de la victoire chez Bolsonaro que chez Trump quand il a gagné l'élection présidentielle, de voir que ce populisme-là ne réussit pas s'il échoue, à s'installer dans le temps. Et il y a probablement des choses qui sont mal faites, qui m'intéressent, notamment dans la manière de gouverner, notamment dans peut-être dans le style aussi, et je ne connais pas assez le Brésil pour aller plus loin, mais et puis dans les résultats obtenus en matière de délinquance, notamment de criminalité pour ce qui est de Bolsonaro, qui fait que voilà, c'est un mode de gouvernement, de gouvernance qui ne s'installe pas dans la durée.
Julien Drey, quelle que soit l'issue de ces élections, il faut craindre que le Brésil ne s'embrase ?
Il y a un risque réel. D'ailleurs, les premières informations sont inquiétantes, puisqu'il y a déjà des forces de l'ordre qui interviennent, qui empêchent un certain nombre d'électeurs de se rendre aux urnes dans les deux dernières heures, qui se déploient. Mais Bolsonaro, c'est une menace pour nous tous, parce que la manière dont il a gouverné le Brésil en matière justement de lutte contre le réchauffement climatique est catastrophique. Vous savez qu'il a déforesté, qu'il a détruit quelque chose qui équivaut à la Suisse. Bon, or, le poumon du monde, c'est l'Amazone. Et si vous détruisez l'Amazone, alors vous ne maîtriserez plus rien dans le réchauffement climatique. Donc on peut...
Voilà, ça n'a pas commencé avec lui. Hein.
Bon, ça n'a pas commencé avec lui, mais justement, Lula avait réussi, avec des chiffres réels, à empêcher ce qui est en train de se faire, c'est-à-dire les grands propriétaires terriens qui mettent le feu et qui en profitent pour tout gagner des terres et continuer. Deuxièmement, moi, je veux bien que vous ayez plein de modèles, mais si Bolsonaro devient votre modèle, alors il faut voir tout ce qu'il y a derrière, en termes de corruption.
J'ai pas dit ça, moi. Bon,
Je vous signale qu'il a envoyé, Lula
je peux parler de modèle,
en prison. Hein. On a présenté, je me rappelle, quelques débats en me disant que c'était un voleur. Toute la démonstration a été faite que tout le dossier était faux. C'est d'ailleurs pour ça que Lula est aujourd'hui candidat. Vous savez que des candidats de droite qui avaient affronté Lula ont appelé à voter cette fois-ci au deuxième tour pour Lula parce qu'ils disent qu'il faut tout faire pour se débarrasser de ce personnage.
Oui, mais comprenez ce que je voulais dire. Moi, je ne parlais pas du tout de modèle. Je dis juste qu'il y a une grosse ressemblance avec Trump. Et derrière, il y a une forme de parenté entre les deux. Et ils se sont soutenus mutuellement. Oui, et c'est intéressant de voir.
Je pense que sur Trump, il y a des choses à dire, etc. Mais Bolsonaro, c'est vraiment une calamité.
C'est terminé. Voilà, on s'arrête sur ça et on verra. Je pense que les résultats, on les connaîtra demain matin. Ça me prend énormément de temps. Mais évidemment, on suivra.
Dans la nuit, grâce à... Vous allez être là, vous allez...
Moi ?
Oui.
Mais avec vous, à ce moment-là.
Alors on va rester ensemble.
Et avec Geoffroy. Vous promettez de lui laisser un peu plus la parole ?
Je parle. Il se défend. Besoin de promesses.
Allez, la publicité dans un instant, c'est Yvan Réaufol.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.